Histoire de Palestine. Une émission proposée et réalisée par le collectif Palestine 12. Aujourd'hui, rencontre avec Pascal André, médecin urgentiste à Rodez, revenant d'une mission en Cisjordanie avec l'association Amani.
Bonjour Pascal.
Bonjour.
On est content de t'accueillir ici à Radio Larzac. Alors peut-être tu peux peut-être commencer par te présenter et dire pourquoi et comment tu t'es retrouvé en Palestine.
Donc je suis médecin urgentiste depuis 3 ans, après avoir fait pas mal de maladies infectieuses et de médecine interne. J'ai choisi ce métier pour pouvoir bouger et voyager. Donc j'ai eu la chance de sillonner un peu le monde et au mois d'octobre en mer au large de la Libye. Et ensuite, j'ai vraiment souhaité rencontrer, comme j'essaie de le faire depuis quelques années, des personnes en résistance et en résilience. Donc j'ai souhaité partir en Palestine, donc j'ai contacté un peu partout, à droite à gauche. Et l'association Amani, qui est une association franco-palestinienne, qui regroupe une trentaine de soignants situés en France, m'a proposé d'aller à Tulkarem, donc en Cisjordanie, pour évaluer et soutenir un service d'urgence dans un hôpital.
Alors, peut-être tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette association Amani.
C'est une association qui soutient donc des actions soignantes, donc en Cisjordanie, à Gaza, depuis plusieurs années au Liban. Association qui envoie des médecins sur place, qui soutient des centres de soins et qui est extrêmement impliquée depuis longtemps.
Et donc tu as eu une proposition pour aller à Tulkarem.
Voilà, donc je suis allé voir sur la carte où était Tulkarem, qui est juste à la frontière, derrière le mur, pas très loin donc, de Tel Aviv, qu'on voit des monts qui sont à côté de Tulkarem. Et je me suis retrouvé dans un petit hôpital, privé, mais à vocation quand même sociale, soutenu donc par des pays étrangers, dont le Qatar, qui a comme vocation donc, de soigner la population locale, en sachant que Tulkarem est quand même une grande ville, entre 80 et 100 000 habitants, avec de nombreux camps, et une population paupérisée. Donc je me suis retrouvé dans un service où il y avait une petite activité de médecine d'urgence, donc j'ai pu évaluer, et assez rapidement, j'ai ressenti le besoin, en accord avec les responsables de l'association, d'aller faire un tour sur les autres services d'urgence et de préhospitalier.
Mais là, à Tulkarem, tu as fait une rencontre.
Oui, j'ai été accueilli très agréablement par Wael, Saïfi et sa famille. Donc Wael est un médecin interniste très engagé socialement et très engagé pour la cause palestinienne. Et il a eu la gentillesse de se prêter à répondre à mes questions. Donc j'ai interrogé avec mon petit téléphone, j'ai eu 5 heures d'enregistrement et avec les événements récents, je lui ai demandé de refaire un enregistrement. Donc il a, pendant un quart d'heure, choisi de nous parler. Donc on va laisser la parole à Wael.
Good evening for all people in Europe who support the fact, who support the truth, who support freedom, who support human rights and civilization.
Bonsoir à vous, Européens, qui soutenez la vérité des faits, la liberté et les droits humains.
Because these are the ideas of your European people.
Car ce sont vos idées, à vous, Européens, qui vivez en Europe et qui bénéficiez de cette liberté, des droits humains et de la civilisation.
I am Dr. Wael,
Safi, I am a doctor of internal medicine, living in Palestine, in West Bank. I'm working in a hospital called the Isra Hospital in a city called Tulkarem in West Bank.
Je suis le docteur Wael Saifi, médecin interniste à Tulkarem en Cisjordanie. J'habite à 25 km de mon hôpital, situé à Tulkarem. Chaque matin, lorsque je me rends à mon hôpital, il y a un checkpoint matin et soir sur la route. Toutes les autres routes sont fermées par des portes et par des soldats israéliens présents 24 heures sur 24. À chacun de ces checkpoints, les soldats sont armés et prêts à tirer.
Morning, evening, with these soldiers who are standing, checking for our documents.
Ils vérifient l'ensemble des pièces d'identité, des papiers du véhicule, tous les documents, prennent les documents en photo ainsi que la plaque d'immatriculation. Certaines fois, nous sommes bloqués sur le checkpoint 10 minutes, 20 minutes, parfois une heure. Parfois, ils nous empêchent de continuer notre trajet et nous forcent à revenir à la maison. Cela est notre quotidien. Même comme personnel médical.
Other people are suffering more than we are suffering.
Certains souffrent plus que nous, mais maintenant, nous souffrons tous de la même manière, car il n'y a aucun respect des lignes rouges par les soldats israéliens en Cisjordanie comme à Gaza.
Because of the blind support from the European and American leaders. These leaders.
En raison du support inconditionnel des Américains et des leaders européens. Ces leaders européens qui pleurent pour des personnes en Ukraine, Monsieur Kerpi, lorsqu'il était en train de parler des personnes mourant en Ukraine, je l'ai vu pleurer, a dit ensuite qu'il était normal que des personnes meurent pendant la guerre en parlant de Gaza. C'est la guerre. C'est la guerre.
This is the war. This is the war. This is the civilization. This is the human rights. This is the freedom.
C'est la civilisation, la liberté, les droits de l'homme. Les personnes doivent regarder avec les mêmes yeux la situation ici comme dans d'autres pays. Nous souffrons ici de la naissance jusqu'à la mort. Mon père souffrait, je souffre, mon fils souffre.
My son is suffering. We are going the same way.
Nous suivons le même chemin. Depuis 1948 jusqu'à maintenant, les checkpoints sont des checkpoints. Les soldats sont des soldats. Sur les routes, les soldats sont là 24 heures sur 24 heures, nous empêchant de vivre normalement.
From living normally. On the other hand, Israeli settlers are going through.
D'un autre côté, les colons israéliens sont présents dans les montagnes et les vallées pour nous empêcher d'aller rejoindre nos terres, de planter, cultiver, ramasser les olives et l'huile. Ces mêmes colons disent qu'ils traitent avec des animaux, des sauvages.
Animals, savages. This is the words of the European people.
Ces mots sont repris par des Européens qui les soutiennent. Qui soutiennent ces colons, qui parlent de personnes qui vivent l'occupation depuis 75 ans et sont esclaves. Ils ne veulent pas que nous disions que nous sommes des humains et que nous avons des droits humains.
We need our human rights. We need our freedom. It is forbidden for us to say that, but when we say that, that means that we are against.
C'est interdit pour nous de dire cela. Et quand nous le disons, ils disent que nous sommes contre le sionisme. Qu'est-ce que c'est que cette vie? Est-ce une vie? Chaque Européen peut venir en Palestine, venir vivre 10 jours notre quotidien pour voir la souffrance dans laquelle nous sommes.
Why? Because of the blindly support of the European leaders, France, England, Germany.
Pourquoi? À cause du soutien aveugle des leaders européens, France, Royaume-Uni, Canada, Allemagne, un support aveugle à Israël.
Israeli point of view.
Car les leaders en Europe ne peuvent pas exprimer autre chose que le point de vue israélien.
The media in Europe and America.
Les médias en Europe et aux États-Unis sont les médias d'Israël. Tous les leaders aux États-Unis et en Europe sont sous influence sioniste. Nous sommes occupés par l'armée israélienne. Vos leaders sont occupés par le sionisme. Ainsi, aucune place pour entendre la vérité. Tout ce que vous entendez à notre sujet est mensonge. Tout ce que vous entendez par les médias est mensonge. Pour voir et entendre la vérité, il faut venir ici et voir avec ses propres yeux. Une fois, je menais ma famille dans une ville à 10 minutes de chez moi. Il y avait un checkpoint. Nous sommes restés bloqués environ une heure. Ma fille, âgée de 8 ans, me demanda, « Papa, pourquoi est-ce que nous attendons ici ?» Je lui répondis, « Nous attendons ici à la demande des soldats israéliens. » Elle me répondit alors, « Qui donc leur donne le droit de nous arrêter ainsi? Pourquoi les voitures avec des plaques jaunes peuvent traverser directement ?» La plaque jaune signifiant voiture israélienne. Alors que nous, nous sommes obligés d'attendre une heure.
But we are standing for 1 hour. This is a child.
C'est une enfant de 8 ans réfléchissant ainsi. Qu'est-ce que je peux lui dire? Cette question que ma fille me posait, je la posais à mon père il y a 40 ans. Pourquoi vivons-nous la même chose 40 ans après? Car les leaders européens qui parlent de paix depuis 40 ans font tout pour supporter Israël contre nous. Car ce sont vos idées à vous, Européens, qui vivez en Europe et qui bénéficiez de la liberté, des droits humains et de la civilisation. Pourquoi vivons-nous la même chose 40 ans après? Car les leaders européens qui parlent de paix entre Palestiniens et Israéliens font tout leur possible pour soutenir Israël contre nous. Si nous revenons à l'histoire, en 1927, l'Angleterre a occupé la Palestine. Belfort a promis aux Israéliens de leur donner un État en 1917. Ils ont mis en place des infrastructures pour que les Juifs du monde entier puissent venir ici, en Palestine, prendre notre terre. Et en 1948, ils ont forcé les Palestiniens à quitter leur maison, leur territoire, leur village, leur terre, pour aller au Liban, en Syrie, en Jordanie, en Égypte, en Irak. En 1967, ils ont occupé l'autre partie de la Palestine avec Gaza, la Cisjordanie, le plateau du Golan et le Sinaï. Maintenant, que se passe-t-il à Gaza? À Gaza, il y a la guerre. Pourquoi y a-t-il la guerre? Dans les médias, on parle de l'attaque d'Israël. Israël nous attaque depuis 1922, non pas depuis 1948. Ils ne nous ont jamais laissé le temps de vivre normalement depuis cette date.
48. They didn't give us time to live normally from that time till now. The people in Gaza.
Les Gazaouis sont 2 300 000 à vivre sur 365 km². La plupart d'entre eux sont réfugiés des villages, villes de Palestine, qui furent alors forcés en 48 de quitter leur terre pour aller à Gaza. Depuis, ils sont dans des camps à Gaza. Ils ne savent pas ce que signifie la vie. Ils ne savent pas ce que signifie la paix. Ils sont prisonniers. À l'ouest, la Méditerranée. À l'est et au nord, Israël. Au sud, l'Égypte et tout l'espace aérien condamné. La porte d'accès est contrôlée par Israël et l'Union européenne. Aucun autre qu'eux peuvent prendre des décisions. La porte n'est ouverte que 80 jours par an. Pour franchir cette porte, il faut attendre des jours, voire des semaines. Comment ces personnes peuvent-elles réagir? Quelle vie vivent-ils? C'est la guerre. Peut-être tuer 10 000, 20 000, 300 000 personnes, mais les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie, nous sommes 7 millions. Vous voulez tous nous tuer?
Do you want to kill us all? No.
Non.
At the end, what is the solution? The solution is that to give us our rights.
Quelle est donc la solution? La solution est de nous donner nos droits. Quels sont nos droits? Le droit de vivre comme un humain, d'être libre, de vivre simplement dans ta maison. Tu sais que c'est ta maison. Tu peux t'endormir le soir sans avoir l'inquiétude de savoir si le lendemain, la maison sera encore la tienne, si les soldats israéliens ne l'auront pas pris, ainsi que ton terrain ou ton pays, te forçant à quitter tout cela. C'est la réalité que nous vivons. Lorsque nous voyageons de village en village ou de ville en ville, aucun de nous ne peut savoir s'il pourra revenir. Il peut être tué sur la route ou mis en prison.
He can be killed on the road without reason. I am speaking for you and I hope that.
Je vous le dis et vous le redis. J'aimerais que chaque Européen puisse venir au moins 10 jours en Palestine pour vivre notre vie et voir et prendre conscience que ce que je dis est vrai. C'est la vérité. La vérité est là. Les faits sont là. Ils ne sont pas à la Maison Blanche ou à l'Élysée.
France, who make the nuclear reactor for Israel?
La France qui fait des réacteurs pour Israël, l'Amérique, l'Allemagne et d'autres pays leur donnent des bombes et des roquettes pour bombarder Gaza et son peuple. Nous voulons que vos peuples regardent et disent la vérité et soient actifs lors des élections au Parlement européen pour savoir qui doivent être leurs leaders, des leaders qui puissent soutenir notre peuple.
We want your people to support us. I hope that everyone in this world can live peacefully.
J'espère que chacun dans ce monde puisse vivre en paix, puisse vivre normalement, sans problème, loin de la souffrance. Et nous pouvons vivre comme les autres. Donnez-nous le droit de vivre normalement, d'avoir nos droits humains, notre liberté, et je pense que tous les problèmes pourront être résolus. Un grand merci à chacun de vous en Europe, et j'espère un jour que la vérité et les faits seront dévoilés et que vous pourrez venir ici pour voir la vérité.
All you in Europe, I hope that will come the day in which the truth will be the facts and you can come here and see the real life and the fact and the truth. Thank you all.
Merci à chacune et chacun de vous.
Vivre normalement, c'est quand même quelque chose de simple. De nombreuses personnes du collectif Palestine 12 sont allées en Palestine et ont pu visualiser exactement ce que raconte Well. Les checkpoints, rendre la vie impossible aux Palestiniens. Ça a été une constante dans la politique d'Israël. Alors, Pascal, qu'est-ce que tu as fait à Toulkarem?
Déjà, j'ai rencontré cet homme qui m'a beaucoup appris, qui m'a appris son lien à la terre, parce qu'ils sont tous des terriens et ils ont une terre fertile, et c'était vraiment très touchant de travailler la terre avec lui. C'était très touchant de travailler l'humain et le soignant avec lui. Car donc j'ai été dans le service d'urgence sur Toulkarem pendant un moment, rencontrant des équipes, rencontrant des médecins formés un peu partout dans le monde, mais revenant ici travailler dans des conditions difficiles, étant payé à peine 500 dollars par mois et devant cumuler souvent plusieurs métiers. Donc des médecins travaillant plus de 70 heures, 80 heures par semaine pour y arriver à peine, dans des conditions compliquées, avec un taux de chômage important parmi les soignants, parce qu'il y a une université qui fonctionne bien pour les infirmiers et pour les médecins, mais comme la population est bloquée dans le pays et comme construire des hôpitaux et des lieux de soins, c'est compliqué, mais beaucoup sont au chômage. Donc j'ai pris du temps dans le service d'urgence sur cet hôpital et puis ensuite je suis allé voir d'autres hôpitaux, les hôpitaux publics et le préhospitalier, parce que je voulais savoir comment c'était organisé. J'ai découvert que c'était une culture différente, que le rapport au corps était différent, le rapport à l'intimité était différent, qu'on n'examinait pas les patients de la même manière, ce qui peut poser souci parfois sur des patients polytraumatisés ou victimes d'agressions. J'ai découvert que l'accès aux techniques permettant de faire des diagnostics était quand même limité. Il y avait rarement donc des produits de contraste dans les scanners que j'ai pu rencontrer, donc ce qui pose vraiment souci lorsqu'on veut explorer un patient victime d'un polytraumatisme. Et j'ai rencontré des équipes soignantes très motivées, très bien formées, mais souvent dépassées par une situation très compliquée. À l'hôpital public, j'ai été passer un petit peu de temps donc, sur Tulkarem. J'ai été aussi passer une soirée avec le Croissant Rouge dans les ambulances.
Alors, le Croissant Rouge,
le Croissant Rouge, c'est notre croix rouge, mais bon, la croix, c'est chrétien, le croissant, donc c'est musulman. Donc, c'est l'équivalent de notre croix rouge ici, c'est le Croissant Rouge, donc qui assure un tiers des transports donc, en ambulance sur l'ensemble du territoire de la Cisjordanie et de Gaza, deux tiers étant maintenant privés. Et qui ont des centres avec du personnel donc, bénévole et parfois salarié, donc des paramèdes qui sont parfois infirmiers et beaucoup de secouristes qui ont souvent, malheureusement, en raison de la situation, un niveau absolument important, capable de prendre en charge des patients compliqués dans une condition très dégradée. Donc énormément d'accidentologie routière. Beaucoup de gros soucis par rapport à ça, et énormément d'agressions par arme, bien entendu en raison de l'occupation, parfois aussi entre eux, avec donc des difficultés importantes, donc une nécessité de prendre en charge très rapidement le patient. Donc le souci, lorsque l'armée d'occupation est là, pour permettre aux ambulances d'accéder aux blessés, avec souvent des ambulances qui ne peuvent pas y accéder, qui n'y accèdent que lorsque l'action est terminée, donc des blessés qui sont souvent transformés en décédés, et parfois de la violence à l'égard des ambulanciers. Ce dont j'ai pu être témoin en me promenant ailleurs, donc j'ai été à Jenin, où j'ai vu le centre extrêmement moderne de la clinique privée qui tourne bien, mais qui reçoit aussi des blessés de guerre, et l'hôpital public, beaucoup plus en difficulté, recevant malheureusement de très nombreuses victimes parfois, avec donc des équipes du Croissant Rouge souvent débordées et souvent ne pouvant avoir accès donc au lieu de l'agression militaire. Donc des situations compliquées, des équipes qui ont été traumatisées par des attaques violentes, une ambulance qui avait été gardée donc sur le lieu du Croissant Rouge qui avait été carbonisée donc par un lance-flamme israélien avec des soignants morts à l'intérieur. La semaine dernière encore à Jenin, une soignante du Croissant Rouge qui s'est pris une balle dans le dos. Donc une réalité que je n'avais pas imaginé, qu'on puisse tirer sur des soignants, qu'on puisse faire mal à des patients, qu'on puisse empêcher des soignants d'accéder à des patients. Dans un monde qui se dit, je sais pas comment dire, mais adapté, qui se dit occidentalisé ou qui se dit développé. La base, hein, comme nous le montrera plus tard, donc, et en ce moment en Gaza, vient vraiment poser souci. Après Jenin, j'ai choisi la Naplouse, où j'ai fait un peu les mêmes constatations. J'ai rencontré beaucoup d'équipes au sein des hôpitaux publics. Et puis j'ai fini finalement à Ramallah, où je suis allé au ministère pour leur faire part du ministère de la Santé, et puis au siège du Croissant-Rouge, pour leur faire part de mon évaluation. Ils ne m'avaient rien demandé, mais j'ai été très gentiment accueilli. Il n'y a pas trop de hiérarchie en Palestine, donc c'est merveilleux, on peut discuter avec tout le monde, être très bien accueilli. Et donc ils étaient intéressés pour qu'on puisse continuer le travail ensemble, pour améliorer la prestation préhospitalière, pour réduire la mortalité en préhospitalier. Donc c'est sur ce projet-là que, depuis plusieurs mois, je travaille avec des collègues que je n'ai pas trouvés en France, parce que c'est compliqué de trouver des collègues en France intéressés par cette question-là. En tout cas, je n'en ai pas trouvé. Et donc des collègues internationaux avec lesquels on devait partir au mois de septembre donc pour un temps de formation auprès des équipes du Croissant Rouge, et puis donc ça a été décalé. Donc on prévoit ça au mois de janvier. Mais depuis, malheureusement, donc Gaza est venu poser souci, et on en parlera dans quelques instants.
Voilà. Tu as le projet de retourner en Palestine et plus particulièrement à Gaza. Pourquoi ?
Gaza, sous réserve que les couloirs humanitaires puissent être ouverts et que on puisse apporter des soins de manière adaptée avec des traitements ajustés et que les équipes locales le demandent. Est-ce qu'il n'y a rien de pire que d'intervenir en humanitaire et non pas en solidaire? Donc voilà, pour l'instant je suis en attente d'un éventuel départ avec une association qui s'appelle Palmed, qui regroupe des médecins palestiniens, donc européens. Voilà, sinon je pense qu'il y a aussi du travail à faire ici, comme on le verra tout à l'heure, parce que c'est quand même compliqué de sensibiliser et de mobiliser.
Et alors, est-ce que tu peux nous commander un petit peu ce qui se passe sur Gaza et dans les hôpitaux de Gaza?
Alors, je n'ai pas d'informations directes. J'ai des informations par Well et ses amis, nombreux amis qui renvoient ce que chacun d'entre nous peut percevoir à travers les médias en boucle fermée. Je vous invite à écouter ce que dit un collègue anesthésiste-réanimateur danois, qui est en même temps un politique qui va régulièrement là-bas depuis plus d'une vingtaine d'années, et qui était sur place à l'hôpital principal de Gaza quelques jours avant donc l'assaut de l'armée. Je vous invite à l'écouter.
President Biden. President Biden. President Biden. Monsieur Blinken. Monsieur Blinken. Pouvez-vous m'entendre? Premier ministre et président de l'European pays, est-ce que vous m'entendez? Entendez-vous les cris de Shefa, hôpital Gaza? Pouvez-vous entendre ce hurlement des personnes innocentes, réfugiées, se cachant, essayant de trouver un endroit dans l'hôpital, bombardé par les forces armées ce matin, les hôpitaux qui sont les temples de l'humanité et protection? Quand est-ce que vous allez arrêter ça? Vous êtes tous complices. Thank you.
C'est beaucoup d'émotion, cet hymne palestinien chanté par les enfants qui sont en train de se faire massacrer à Gaza. Et puis cet appel du docteur Matz et le témoignage de ton ami à Toulkarem. Tout ça, c'est beaucoup d'émotion. Quand même, il y a quelques politiques qui ont une vision un petit peu claire de la situation. On vous propose de donner la parole à Dominique de Villepin.
Surpris par l'ampleur, par l'horreur, par la barbarie qui s'est exprimée ce 7 octobre et qui m'appelle, nous appelle tous à un devoir d'humanité et de solidarité vis-à-vis d'Israël et du peuple israélien. Mais je dois le dire, et je le dis avec une peine infinie, pas surpris par cette haine qui s'est exprimée quand on se rappelle à Gaza, depuis 2006, la guerre de 2008, de 2012, de 2014, encore en 2021, quand on se souvient de ce que nous avons tous dit comme témoins sur place de cette prison à ciel ouvert, on parle de cocotte minute. Qu'une telle situation puisse inventer l'enfer sur Terre. Alors oui, on se dit que quelque chose a été raté. Raté par nous tous, par l'ensemble de la communauté internationale. Et que l'amnésie qui a été la nôtre, l'oubli qui a considéré à imaginer que cette question de Gaza, que cette question palestinienne allait pouvoir s'effacer devant un accord économique, un accord stratégique et diplomatique qui serait en quelque sorte le substitut à cette tragédie, parce qu'il y a là une tragédie, avec deux regards, deux points de vue, deux expériences de l'histoire. Et c'est ce qui fait que il est si difficile aujourd'hui de sortir de ce qui est un engrenage de la violence et de l'horreur. Et c'est pour ça que le devoir de responsabilité que nous avons vis-à-vis de cette horreur, c'est de bien prendre en compte l'importance de la réaction et de se souvenir toujours que le droit à la légitime défense n'est pas un droit à une vengeance indiscriminée. De se souvenir que il n'y a pas de responsabilité collective pour un peuple, pour les crimes commis par quelques-uns. Et c'est dire combien la voie est étroite. Mais il faut une perspective politique. Et de ce point de vue-là, la solution à deux États, plus que jamais, est aujourd'hui la seule. Faisons en sorte qu'émerge une autorité palestinienne qui soit représentative et capable de mener des négociations. Et de ce point de vue-là, Israël a une responsabilité, car il a tout fait pour diviser. Mais l'illusion est plus profonde. C'est qu'il n'y a pas de sécurité possible sans règlement politique. Il n'y aura pas, et ça je l'ai dit depuis des dizaines d'années, Israël ne peut pas être en sécurité tant qu'il n'y a pas la reconnaissance d'un État palestinien à ses côtés qui partage la responsabilité de la sécurité dans cette région à travers la reconnaissance de l'existence de l'État d'Israël. Depuis 2003, le rêve d'un grand Moyen-Orient américain, puis les printemps arabes, puis le terrorisme de l'État islamique en 2014 et les accords d'Abraham, cette question palestinienne et la question de Gaza est passée au second plan. Cette horreur qui se produit ramène évidemment ces enjeux au cœur de l'actualité. Agissons ensemble pour faire avancer la paix et la justice. Il faut regarder les choses en face. Et en même temps, il faut ne pas oublier, il ne faut pas être amnésique, il ne faut pas regarder qu'un aspect du sujet. Et c'est ce qui est si difficile, et c'est pour ça qu'on se moque souvent des diplomates quand ils veulent pratiquer une politique d'équilibre. Il ne faut ni renvoyer dos à dos l'agresseur et l'agressé, le criminel et celui qui est la victime, ni ignorer la réalité et la complexité de ces sujets. C'est pour ça que je marche sur des œufs et je veux avancer avec des pattes de colombe. Rien n'est plus difficile que de faire face à l'histoire quand elle se brouille. Être à la hauteur, c'est un travail de tous les instants et de tous les jours. Mais l'Europe, qui est la principale pourvoyeuse d'aide à la population palestinienne, doit bien sûr être en tête. Une fois de plus, nous sommes le continent aujourd'hui qui connaît la guerre en Ukraine, qui a été le plus éprouvé historiquement, qui a été marqué par le terrorisme. Nous avons quelque chose à dire. Nous ne devons pas nous excuser d'avoir une expérience. Nous devons la partager. Et nous avons vu nos amis américains se fourvoyer pendant des années. Et nous sommes nous-mêmes fourvoyés dans d'autres interventions militaires. Donc, soyons lucides, soyons capables d'un examen de conscience, soyons capables, dans un souci une fois de plus, de démocratie et d'efficacité, parce que je ne parle pas seulement de façon irénique au nom de la démocratie, c'est au nom de l'efficacité que nous devons aussi agir.
Donc, ça se passait sur France Inter. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau, donc sur le terrain, en Aveyron? Comment l'hôpital peut être interpellé?
Comment le soignant, comment chacun qui est capable de prendre soin de l'autre est interpellé par des témoignages comme ceux que l'on a entendus? Comment notre humanité réagit à une telle situation? Ce qui se passe probablement en chacun de nous, c'est qu'on est saturé. On est saturé par des images, on est saturé par des sons qui viennent de Palestine, qui viennent d'Ukraine, qui viennent de plein d'autres conflits. Et un certain nombre d'entre nous, saturant... préfère faire autre chose, préfère s'évader, ou nous reproche, lorsque on est sur des marchés, par exemple, de ne pas s'occuper de tel ou tel conflit sans rien faire eux-mêmes. Donc la question, c'est en quoi suis-je concerné? En quoi le pays dans lequel je vis, les dirigeants avec lesquels je suis, que j'ai choisi, ont une responsabilité? En quoi mon peuple a une responsabilité? Mon ami Wael, qui a témoigné tout à l'heure, me disait, mais où sont les Français? Est-ce que les Français se manifestent pour nous? Est-ce qu'ils comprennent ce que l'on vit? Et donc c'est une question compliquée. Je suis revenu moi au mois de mai. J'ai essayé de trouver des soignants qui étaient intéressés par cette question-là et qui pouvaient éventuellement accepter de faire une rotation de formation ou de support aux équipes sur place. J'ai trouvé personne. C'est vraiment compliqué. Les gens s'intéressent 2-3 minutes et décrochent, la plupart d'entre eux. Aujourd'hui, avec les événements qui se passent à Gaza, la plupart des amis musulmans, les médecins qui font tourner nos hôpitaux, 30% des effectifs des hôpitaux français sont tenus grâce aux médecins étrangers, la plupart du temps musulmans. Ceux qui sont proches de moi me disent leurs craintes, me disent leur inquiétude aujourd'hui d'être mis à l'écart, de ne pas pouvoir s'exprimer. Comme vous l'avez vu pendant 3 semaines, les manifestations pour la paix ou de soutien au peuple palestinien étaient interdites. La parole est limitée et donc le bouc émissaire est recherché et ça pose vraiment souci. Oui, c'est compliqué de mobiliser. C'est compliqué de mobiliser parce qu'on peut avoir peur, parce qu'on est trop saturé. Mais l'histoire quand même nous rappelle que lorsqu'on fait l'autruche, lorsqu'on ne veut pas voir, on laisse place à la barbarie. La terrible tragédie du peuple juif, vécue il y a des décennies, n'est-elle pas capable de se rejouer? Ce qui se passe aujourd'hui à Gaza n'est-il pas aussi une tragédie absolument terrible? Certains aujourd'hui commencent des démarches judiciaires pour dénoncer ce crime. Donc plus de 300 avocats ont aujourd'hui déposé une démarche devant le Tribunal pénal international pour génocide à Gaza. Notre responsabilité à chacun est engagée et nous pouvons agir en ouvrant les yeux, en communiquant avec les amis musulmans et les frères français musulmans et les sœurs qui sont présents, qui vivent une religion de paix et d'amour. J'ai été extrêmement frappé lors de mon passage en Palestine par l'importance de la foi, de leur foi, de leur foi de « j'y étais pendant le Ramadan ». Donc d'altérité, de relation à l'autre, de solidarité, de pardon et d'amour. J'ai pas du tout vu une religion telle qu'elle nous est présentée par certains qui essaient de nous faire peur, une religion qui rejette, une religion de haine. Si certains fous se nomment islamistes alors qu'ils n'ont rien de l'islam et se font tuer, ça n'a rien à voir avec cette religion, qui est une religion d'amour comme les autres. Autant que le judaïsme et autant que le christianisme. Pourquoi tant de haine pour un même Dieu? Quand on va à Jérusalem, c'est juste hallucinant de voir ça. J'ai été glacé par ce que j'ai vu là-bas. Et voilà, donc la question c'est comment se mobiliser en sortant de chez nous, en ouvrant les yeux et en vivant simplement une fraternité qui va nous permettre d'éviter des dérives hallucinantes. J'ai essayé de proposer dans mon hôpital, par exemple, une minute de silence il y a 10 jours. J'ai écrit à la direction, aux affaires médicales et aussi aux collègues de la communauté médicale. J'ai pas eu de réponse. Et puis j'ai eu une réponse qui était « on peut rien faire parce que le ministère nous a rien dit ». Et puis j'ai eu finalement, suite à une démarche personnelle, 8 réponses sur 150. Certains me disent que c'est beaucoup. Je trouve ça affligeant, ça me rend triste. Je trouve ça juste terrible. Et je trouve aussi terrible que nous soignants, qui avons quand même une déontologie, un engagement, un serment, nous soyons obligés d'attendre l'aval d'un pouvoir politique qui aujourd'hui est censé être de centre, droite, mais qui un jour sera peut-être à une extrême, avant de nous positionner. Jusqu'où on va aller? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qui se passe en nous?
Alors justement, sur Mio, on a essayé d'expliquer des choses un petit peu simples. La première chose, c'est de cesser le feu. C'est le mot d'ordre qui est donné dans toutes les manifestations en France. La première chose, c'est ça, c'est d'arrêter en fait ce massacre qui a lieu à Gaza. Et après, c'est d'expliquer en fait aussi, comme l'a fait ton ami Well, d'où ça vient. Et d'où ça vient? Eh bien, ça vient en fait d'une colonisation qui n'a fait que progresser, où en fait les Palestiniens sont dépossédés de leurs terres et où Israël mène une politique d'apartheid. Et ça, aucun politique n'ose le dire. Mais la politique d'apartheid, elle a été dénoncée dès 2008 par le tribunal Russell et après par de nombreuses ONG, dont des ONG israéliennes, dont Amnesty International, dont des hauts cadres des services secrets israéliens. Israël mène une politique d'apartheid et tant que cette politique continuera, eh bien, on n'aura pas la paix, on ne trouvera pas la paix, on ne trouvera pas de solution sur le conflit israélien. Donc, nous mobilisons, nous appelons en fait les Milavois, les Saint-Africains, les Sévragais, les gens de Rodez à manifester tous les samedis à Millau, place de la Capelle, à 11h, de manifester dans la dignité, dans la non-violence, pour dire non, on n'est pas d'accord, pour dire notre indignation. C'est insupportable. Nous devons au moins dire que nous ne sommes pas d'accord. C'est le minimum.
J'ai été extrêmement frappé par la réaction de certains collègues soignants d'origine musulmane, investis de manière importante dans l'hôpital ou dans d'autres lieux de soins, qui, depuis les événements du 7 octobre, sont en insécurité, ne se sentent pas libres de dire ce qu'ils pensent, ne se sentent pas libres de manifester, craignant pour leur sécurité. Les fondements de notre démocratie sont vraiment, vraiment interrogés. Prenons-en conscience, comme peut-être lorsque nos dirigeants européens, français ou autres, vont soutenir Netanyahou. Peut-être qu'on peut s'interroger. Cet homme qui a des déboires judiciaires depuis fort longtemps, qui s'associe avec une extrême droite des plus inquiétantes, avec des discours comme ceux que Well a retracés tout à l'heure, mérite-t-il l'approbation, le soutien de démocraties comme les nôtres ? Posons-nous des questions. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Jusqu'où ? Et est-ce que nous, citoyens, nous n'avons pas quelque chose à dire ?
Rendez-vous samedi, 11h, place de la Capelle. Merci, Pascal, de ton témoignage fort et surtout aussi des témoignages des gens que tu as rencontrés, que tu nous as fait partager. On est très émus par eux, il faut que tu leur dises. On espère que cette émission va être beaucoup écoutée. Dis-leur qu'on essaye en fait de les aider et on pense à eux en permanence.
Mais merci beaucoup à eux parce que franchement, moi je ne pourrais pas me comporter avec autant de non-violence et de résilience comme ils le font. En ayant simplement vécu 3 semaines leur vie, à peine leur vie, je me suis dit mais comment font-ils pour tenir sans être dans la violence ? Et je pense qu'il faut retenir que les Palestiniens, la plupart d'entre eux, sont dans une démarche, comme l'a bien dit Well, de paix. Ils veulent simplement vivre comme chacun de nous, le plus libre possible et être respecté. Qui d'entre nous pourrait supporter, dans sa propre vie, 15 minutes avec les mêmes privations ?
Ceux qu'on chasse de leur maison, j'écris ce texte avec le cœur et la raison. Je n'ai peur rien, c'est la vérité, vous effraie. Mais je suis ni aveugle, ni sourd, ni muet. Se taire, c'est parfois cautionner la violence et le non-droit. Je ne serai pas complice du silence. Anticolonialiste, ce n'est pas être antisémite. Je suis qu'un homme avec le sens de la justice. Je n'ai que la parole pour treillis, pour ceux qu'on traite en étrangers dans leur propre pays, pour ceux qui ont été spoliés, volés, qui ont vu leurs droits les plus fondamentaux violés. Héritage tragique de décisions injustes prises sous mandat britannique. Depuis la déclaration Balfour, on s'enfonce pour comprendre le présent, comprendre où l'histoire commence. Priver un peuple de l'autodétermination, partager ses terres sans aucune consultation. Observe le drame de la colonisation. T'as deux options, la lutte ou la résignation. La Palestine n'était pas une terre sans peuple, destinée à accueillir un peuple sans terre. Il y a bien un occupant et un occupé. Il y a bien un oppresseur et un opprimé. Le renier, c'est tenter d'effacer l'histoire. Et effacer l'histoire, c'est refuser qu'on la répare. Il y a bien un agresseur et une victime, un colonisateur et un résistant palestinien. Il est question de faits établis, pas de point de vue. Ma raison peut s'y tenir, même si mon cœur est ému. Il ne s'agit pas de deux forces égales qui s'affrontent. Les médias parlent de guerre, quelle honte! La troisième puissance armée face à une nation sans état. Plus de 1000 pour 10 à la dernière intifada. C'est ça la guerre? Mais malgré tout ce qu'ils subissent, les Palestiniens résistent, les Palestiniens existent. J'ai rarement vu un peuple si courageux. Sa fierté brille comme le soleil, même partant orage. Je peux pas me désolidariser, juste en tant qu'être humain, je suis obligé de me positionner. C'est un appel à partager leur peine. Et les ignorants diront que c'est un appel à la haine. On ne nourrit pas l'injustice en la dénonçant, mais en la taisant, quoi qu'ils disent. J'écris avec le cœur et la raison. Car sans le cœur et la raison, il n'y aura jamais de paix à l'horizon. Parlons de faits, pas de vision. La paix sans la justice ne sera jamais qu'une illusion. Sans le cœur et la raison, non, il n'y aura jamais de paix à l'horizon. Parlons de faits, pas de vision. La paix sans la justice ne sera jamais qu'une illusion. Pas de quiétude dans l'occupation. Au quotidien, l'occupation, c'est l'humiliation. L'humiliation est violente, constante. Aux frontières des checkpoints, la liberté est agonisante. Je décris la détresse d'une nation qui sur ses propres terres n'a plus la libre circulation. Sous couvert de sécurité, l'apartheid se maquille et le mur sépare les familles. Les colonies se multiplient sous l'œil actif et complice des États-Unis. Négociations sans fin pour la création d'un État palestinien. Mais quand viendra l'heure, qu'est-ce qu'il en restera? Quelques bouts de terre éparpillés, à l'heure où j'écris ce texte, plus des trois quarts ont été pillés. Près d'un million d'êtres humains ont été poussés à l'exil. Pourquoi quitter leur terre si leur vie n'était pas en péril? Et leurs biens sont devenus les leurs. Les espoirs de retour sont devenus des leurs. As-tu entendu parler de la dite loi des absents? Les biens des réfugiés reviennent à l'occupation. Qui peut prétendre trouver ça normal? Qui peut prétendre que je devrais rester impartial? Pour rester impartial, quand l'injustice est flagrante, il faut être sourd avec une morale non voyante. L'histoire témoignera que je me suis levé comme j'ai pu, pendant que les grandes puissances les regardent crever. Tous parlent de droits de l'homme, mais n'empêchent pas le massacre. Les sanctions de l'ONU ne sont applicables qu'à l'Irak. Compte plus les orphelins, les balles qui se sont perdues dans les poitrines de gamins. Combien de nourrissons sous les décombres, de familles entières décimées par des bombes, d'assassinats dissimulés, foudroyant des civils, d'emprisonnements arbitraires. Dites-moi, pensez-vous que je devrais me taire? Je suis censé vivre dans une démocratie, pourtant j'ai peur quand je relis ce que j'écris. Tout est basé sur des faits, mais je crains quand même l'orage. J'écris avec le cœur, la raison et le courage. Car sans le cœur et la raison, il n'y aura jamais de paix à l'horizon. Parlons de faits, pas de vision. La paix sans la justice, une illusion. Sans le cœur et la raison, non, il n'y aura jamais de paix à l'horizon. Parlons de faits, pas de vision. La paix sans la justice, une illusion, une illusion, une illusion. Hosn,
hosn fi qalbi, hosn fi qalbi, حزن في قلبي.